La Bible dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est ce qui construit un chrétien. C'est ce qui le fait entrer dans le plan de Dieu. Et la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est dans la Bible. Cependant, il y a quelques phrases qui sont dans la Bible qui peuvent être prises en dehors du contexte total de la Bible. L'apôtre Pierre nous prévient de cela. Il dit dans 2 Pierre au chapitre 1er, dans les versets 20 à 21, aucune prophétie, aucune parole de la Bible ne doit être prise en elle toute seule. Il faut qu'elle soit comprise par rapport à la vérité révélée de la Bible, à la totale vérité. Et ce que nous constatons, c'est que les gens s'accrochent à des parties au lieu de s'accrocher à la vérité toute simple révélée dans la Bible. Dans la Bible, il y a la vérité donnée, la grande vérité, les grandes vérités qui sont données. Il y a aussi des réalités qui sont exposées dans la Bible. Il y a aussi des phrases qui sont dites. Il ne faut pas faire le choix de prendre des phrases qui vont plaire à l'homme et négliger les vérités fondamentales qui doivent constituer la vie chrétienne. La base est plus importante que le secondaire, même si le secondaire a son importance. Et beaucoup ont dévié parce qu'ils ont fait du secondaire la base, le principal. Jésus veut qu'on retrouve la vérité qui est lui-même, bien-aimé. Quand tu es en train de défendre une position, est-ce que cette position-là ressemble à Jésus? Est-ce que cette position-là a un lien avec Jésus lui-même? Quand tu es en train de défendre l'argent, est-ce que Jésus a défendu l'argent? Est-ce que Jésus a défendu les honneurs? Quand tu es en train de te défendre en disant il faut que tu sois respecté, honoré, est-ce que Jésus a été respecté? Il y a des choses qu'on peut prendre dans la Bible et en faire des doctrines. Quand tu es en train de vouloir vivre un ministère puissant, un ministère rayonnant, est-ce que Jésus a vécu un ministère rayonnant? Non, Jésus est mort à la croix. Jésus a été rejeté par ceux qui l'ont guéri. C'est ça les grandes vérités de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons parler de certaines grandes vérités de la Bible. Et une partie de ces vérités se trouve dans l'exemple d'un homme que beaucoup ont négligé peut-être autrefois. Mais la Bible dit que l'œuvre que Dieu commence dans un homme, il l'amène jusqu'à la perfection. Nous allons parler du voleur qui s'est converti à la croix. Dans cet homme-là, Dieu a exposé la doctrine chrétienne. Dans cet homme-là, Dieu a manifesté les grandes vérités de la vie chrétienne. Nous lisons dans Luc 23, au chapitre 33. Luc 23, 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurier, disant, n'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, C'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Voilà ce que Jésus lui répond. « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui même. Dans cette partie de la Bible, nous voyons les grandes vérités de la Bible. Dans toute petite partie, ce n'est pas trop le sujet, mais je commence par la vérité la plus importante. C'est que c'est Dieu lui-même qui descend, qui vient à toi, qui vient vers toi. Dans ta souffrance, dans ton échec, dans ta déchéance, Dieu s'incline non seulement pour venir t'aider, mais il commence par participer, subir ta souffrance. C'est que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques. Cet homme-là à la croix, il a vu ça et vécu. Il a vu le Fils de Dieu à côté de lui en train de subir la même condamnation que lui. Il a vu ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on lui a prêché. Il a vu. Mais c'est cette vérité que Dieu veut que tu crois sans voir. Que tu crois que pendant que tes parents te maltraitaient quand tu étais enfant, pendant que tu as été délaissé par la société, pendant que tu subissais des colibés, des surnoms mauvais à l'école, à cause de ta taille, à cause de je ne sais quoi, pendant qu'on te cambriolait, Dieu participait à cette souffrance-là. Ce que cet homme-là a vécu physiquement, Dieu veut que tu crois que lui le vit aussi. Pendant que tu souffres, il souffre avec toi. Bien-aimé, il y a des moments même, les gens qui observent la souffrance souffrent plus que les gens qui souffrent. Il y a des moments où les parents souffrent plus que leurs enfants malades. On voit l'enfant qui est malade, il est même parfois, il sourit, il est joyeux, mais le papa n'est pas bien. Il y a des gens qui ont parfois le cancer, ils sont contents, ils marchent, ils s'amusent, mais leur oncle, parent, femme ou mari n'ont plus de vie parce qu'ils se disent, mais il est malade, il mourra un jour. On peut souffrir plus que la personne qui subit les difficultés. Et Dieu veut nous montrer à travers l'exemple de ce voleur à la croix, que c'est ce qui se passe dans nos vies. Il vient à nous, participe à notre souffrance. C'est pourquoi, bien-aimés, tous ceux qui un jour diront « Mais où étais-tu, Dieu ?» auront une réponse étonnante ce jour-là. Parce que quand Dieu va leur montrer le film de sa souffrance pendant qu'eux ils souffraient, ils seront confondus. Mais Dieu ne veut pas que tu sois confondu au jour du jugement. Il veut que dès maintenant que tu comprennes qu'il souffre quand il y a des guerres. Il souffre quand il y a des injustices. Alors que Dieu avait choisi Israël comme son peuple. Alors que Dieu avait dit à Israël de ne même pas se mélanger avec les autres peuples. Mais Dieu punissait fortement Israël lorsque il s'occupait pas bien de l'étranger. Parmi les punitions graves, c'était en ce moment-là. Quand Israël était méchant envers les immigrés, les étrangers, Dieu frappait Israël. Parce que tout homme a un intérêt dans le cœur de Dieu. Dieu aime tout homme et souffre à chaque fois qu'un homme souffre. Participe à cette souffrance. Et pendant qu'il participe à cette souffrance, il prépare le chemin de sortie de la souffrance. C'est comme si pour te sauver de ta maladie, lui-même devient malade. Et ensuite, il se sort de la maladie. C'est ce que le Seigneur fait. C'est pourquoi la Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, il a pris nos maladies ont produit ses meurtrissures à lui, ses souffrances à lui. Le Seigneur vient à nous, bien-aimés, quelle que soit ta situation, de faiblesse par rapport au péché, de faiblesse physique, quels que soient tes problèmes, sache que le Seigneur vient à toi. Accepte-le, que le Seigneur n'est pas loin, il est prêt. L'apôtre Paul nous l'explique dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Il a dit, les gens cherchaient Dieu à gauche, à droite, alors qu'il est près de chacun. Il est près, il compatit, il souffre. C'est pourquoi un de ses caractères les plus beaux, c'est qu'on dit qu'il est miséricordieux. Il est sensible à la souffrance pour changer l'état de la personne qui souffre. C'est ça, un des qualificatifs les plus grands de Dieu. Il est miséricordieux. Donc Dieu vient auprès des gens qui souffrent. C'est comme si Jésus a accepté d'être amené à la croix parce qu'il fallait atteindre aussi cet homme-là. Il fallait que cet homme-là entende la bonne nouvelle. Il fallait que cet homme-là qui était à côté soit aussi en face de la vérité. Il y a des bien-aimés qui sont partis en mission en Afrique. Ils ont visité une prison. Mais quelle saleté! Quelle souffrance qu'ils ont vue là-bas! Mais dans leur souffrance, Dieu envoie des gens qui viennent des pays où il y a l'électricité comme il faut, l'eau comme à profusion, la nourriture à profusion, pour aller les visiter dans cette prison. C'est Dieu qui entre avec ces gens-là pour leur dire, je suis à côté de vous, je ne suis pas loin. Je suis venu vous dire que de la prison, vous pouvez être sauvés et être libres. La vraie liberté, ce n'est pas être en dehors des cellules de prison. La vraie liberté, c'est être libéré du péché et du diable. C'est ça la vraie liberté. Et vous pouvez recevoir cette libération en prison parce que je suis là aussi pour vous sauver. Et voilà, j'envoie mes serviteurs pour vous montrer que je suis là. Le Seigneur vient à nous. Il peut venir à travers les humains. Il peut venir à travers les pensées. Il vient à nous. Il va venir à travers les circonstances. Tout humain expérimente un jour dans sa vie, le fait que le Seigneur vient à lui. Même pendant la guerre, il va venir à toi. Le Seigneur est bon. Quand on pense qu'il vient vers tout le monde, on est heureux. On se dit, aucun n'est ignoré. Il vient à toi. Donc le problème qui semble te dépasser, sache que le Seigneur est en train de subir la même souffrance dégagée par ton problème. Il subit cela avec toi. Mais il faut que tu prennes conscience qu'il est là et que la voie de sortie est travaillée. C'est important, bien-aimé. Mais nous allons beaucoup plus nous attarder sur cet homme-là. Cet homme a manifesté une foi extraordinaire. Dans Luc 18, le Seigneur dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Bien-aimé, quand on lit la foi de cet homme, moi je dis, nous on bricole. On bricole. Ça, c'est la vraie foi. Nous, on fait du bricolage. Parce qu'on se plaint pour des petits bobos. On se plaint pour des choses même d'ailleurs que nous-mêmes nous avons occasionnées. Selon la loi simple, on récolte ce qu'on sème. Tu as sémé quelque chose, tu récoltes, tu dis, « Ah, Dieu, tu m'as abandonné. » Comme quand j'avais échoué deux fois à l'université. J'ai dit, « Dieu, tu m'as abandonné. » Oh, mais tu n'as pas étudié, tu veux réussir, maintenant. Donc, beaucoup de nos souffrances viennent même de nous-mêmes. Mais on s'en plaint comme si Dieu était fautif. Et on se dit chrétien. Que des promesses dans la Bible. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Que des promesses, psaume 112, 7. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Psaume 91, l'Éternel te mis la tombe à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras quand même pas atteint. Quand tu tombes, il avait un ange empêché que tu tombes. Psaume 121, il gardera ton départ et ton arrivée. Que des promesses. Mais lorsque les problèmes surviennent, nous oublions tout cela. Et la promesse, généralement oubliée, Romains 8, 28. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tout marche ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Alors, la chose que tu réprouves là, ça concourt pour ton bien. C'est nous qui ne sommes pas attentifs. Alors, quand on voit toutes ces promesses, quand on voit l'exemple de David, l'exemple des gens qui nous ont précédés, Élisée et les autres, on se dit, mais comment se fait-il que les chrétiens qui connaissent Jésus-Christ, comment se fait-il que ces chrétiens-là, ils n'arrivent pas à manifester la vraie foi? Parce qu'ils ont été quelque part déviés par des fausses prédications qui leur ont enseigné autre chose. Nous devons revenir à la simplicité de l'Évangile. Les grandes vérités de l'Évangile, c'est de la simplicité que naîtra la gloire et la puissance. Ce n'est pas dans les enseignements compliqués visant à produire une quelconque foi. Non, c'est en présentant Jésus tel qu'il est présenté dans la Bible que la puissance et la foi se manifesteront. Ce Jésus qui a dit à ses disciples qu'il les a envoyés en mission en leur donnant l'ordre de ne prendre aucune somme d'argent, d'aller comme ça, parce qu'il allait s'occuper d'eux. C'est ce Jésus-là qu'il faut présenter simplement, bien-aimé. Et cet homme a eu foi en quelqu'un qui était crucifié. C'est pas normal, bien-aimé. Nous, aujourd'hui, nous avons foi en quelqu'un qui est ressuscité, qui est vivant. Nous avons foi au Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre. Mais lui, il a eu foi en quelqu'un qui est crucifié. C'est comme si tu es en prison. Tu te dis que c'est ton collègue prisonnier qui va t'aider à sortir. Oh. Mais les gens diront, mais lui-même, il n'est pas sorti, il va t'aider à sortir comment? Il est à la croix. Il a foi en quelqu'un qui est dans la même condition que lui. Bien-aimé, quelle foi! Quelle foi! Aujourd'hui, nous avons même des exemples dans nos vies où le Seigneur a déjà agi. Quand on est bien, on en parle avec fierté. On sort les témoignages. Le Seigneur m'a protégé à telle occasion. Le Seigneur, avec lui, j'ai fait tel exploit un jour, tel jour. On en parle avec fierté. Mais quand les problèmes surviennent, on les oublie vite. Et on commence à contester, bien-aimés. Entrons dans la vraie foi. La foi de cet homme-là. Vous savez, le Seigneur a toujours le dernier mot. C'est-à-dire qu'à la croix, là où on pensait la voir, c'est là que Jésus-Christ a produit le meilleur chrétien de son époque. C'est là même où on pensait qu'il est un échec. Il a produit le meilleur chrétien de son époque. Parce que c'est vrai, le centenier romain a manifesté de la foi, une foi extraordinaire. La femme cananéenne a impressionné Jésus par sa foi. Mais non seulement cet homme dont on parle a manifesté la foi, mais il a connu la doctrine du Seigneur. Aujourd'hui, vous discutez avec certains docteurs de théologie qui ne croient même plus en la résurrection de Jésus-Christ. Il y en a qui font 8 ans de théologie pour devenir homosexuel à la sortie. Bien-aimé. Mais cet homme, en peu de temps, il a compris la doctrine chrétienne. En peu de temps. Bien-aimé, n'ayez pas l'habitude de faire des discussions vaines. Quand quelqu'un veut vous entraîner dans des querelles, dans des discussions vaines, n'en faites pas. Prenez seulement, vous lui dites, écoutez, monsieur, je veux vous lire, c'est écrit, cet homme a clairement dit, Jésus, quand tu reviendras, donc Jésus va revenir. Tout celui qui va vouloir te faire croire que ça a été dit depuis longtemps, mais ça ne se fait pas, c'est faux, ça va se faire. Comme il était venu une fois, il reviendra encore. Ça va se faire. Ne cherche pas à faire des discussions longues et inutiles. Lis seulement la parole. La parole est claire. Jésus-Christ revient. Cet homme a eu foi en cela. Quelle foi impressionnante. Comment peux-tu croire que quelqu'un qui est à côté de toi crucifié, c'est lui le roi des rois, quand il reviendra dans son royaume, dans son règne? Nous allons comprendre comment ça s'est passé. Cet homme, premièrement, a été humble. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Comment son humilité s'est-elle manifestée? Lorsque son voisin a commencé à critiquer Jésus, voyez le procès que faisait son voisin à Jésus, c'est le procès que les gens font à Jésus aujourd'hui. Quelqu'un veut être pédophile. Quelqu'un veut être homosexuel. Il veut fumer tranquillement. Il veut danser le hip-hop tranquillement. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord par faire un procès à Dieu. Oui, mais si Dieu était là, pourquoi les guerres? Mais si Dieu était là, pourquoi il n'a pas vu qu'on violait cette dame-là? Mais si Dieu... Vous savez, si quelqu'un veut faire d'abord des bêtises, il s'assure d'abord qu'il a écarté Dieu du circuit. C'est comme ça. Nous étions tous comme ça. Pour faire une bêtise, tu vérifies déjà bien que ton oncle, pasteur, tu l'as trouvé avec trop de failles. Donc, puisque j'avais un oncle pasteur, il est toujours pasteur. Alors, quand on était païens, on s'assurait de bien le critiquer, de voir ses défauts. Maintenant qu'on a bien vu ses défauts, on est libre, nous aussi, d'avoir des défauts. Bien-aimé, mais la grande différence, c'est que Dieu n'a pas de défauts. Tu peux trouver ça chez un homme, chez un Moïse ou qui que ce soit, mais chez Jésus, tu n'en trouveras pas. Tu peux chercher du matin à 14h. Tu peux chercher jusqu'au 32 mars. Tu ne trouveras pas de défauts chez Jésus-Christ. Alors, on s'assure d'abord que Dieu a failli. Dis-moi, oui, mais eux, ils prient, mais voilà comment ils se comportent. Ah oui, mais il y a trop de religions. Et on va suivre quoi? Ah oui, mais si Dieu existait, pourquoi les tsunamis? Ah oui, mais il y a une contradiction, les gens ont fait des découvertes, il y a l'évolution, alors que la Bible dit que l'homme a été créé. Ah oui, mais on s'assure d'abord d'écarter Dieu. Comme ça, on peut aller dans la boîte de nuit tranquillement. Comme ça, on peut avoir un petit copain, une petite copine tranquillement. Comme ça, on peut injurier tranquillement. On peut taper tranquillement. On s'assure d'abord d'éliminer Dieu du circuit, bien-aimé. C'est ça qui se passe. Et cet homme a commencé à éliminer Jésus. Oui, mais on va lire ce qu'il dit. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Dieu n'a qu'à guérir ma mère. Où est-il? Il n'a qu'à calmer mon mari qui est un peu chaud. Où est-il? Il n'a qu'à arranger telle situation. Voilà le procès. Les gens qui sont dans le péché font toujours des procès à Dieu et aux représentants de Dieu et aux enfants de Dieu. Ils leur font toujours des procès parce qu'ils ont besoin de ce procès-là pour s'affranchir de la vérité. Comme ça, ils peuvent faire les bêtises tranquillement. Ou bien ils font des procès à ceux qui prêchent. Ah oui, mais lui, c'est normal, il a cet âge-là, nous, on est encore jeunes. Et les vieux vont dire aussi, ah lui il est encore jeune, c'est normal qu'il ait cette détermination-là, il va comprendre plus tard, il va baisser. Donc finalement on ne sait plus quel âge on doit avoir. Parce que c'est des procès pour s'affranchir. On écarte Dieu, maintenant on peut faire des bêtises. Mais Dieu était où quand les sorciers tuaient ma mère? Dans ce cas, moi aussi, je vais entrer dans la magie et venger ma mère. Je ne veux pas aller du côté de Dieu parce qu'il était où? Mais il ne s'est pas posé la question, mais Satan aussi était où quand on tuait ta mère alors? Mais toi, tu vas quand même chez lui, hein? Quand tu vas aller dans les boîtes de nuit, mais c'est chez Satan. Mais tu ne t'es pas posé des questions, quand le tsunami sévissait, lui, il était où? Pourquoi lui, tu le choisis alors? Qu'est-ce que lui, il a fait de bien pour que tu le choisisses? Il va t'amener à la mort. Quel que soit l'âge, il t'amènera à la mort. Pourquoi tu n'es pas tranquille? Tu n'es pas tranquille parce que en toi, ton âme n'est pas à l'aise vis-à-vis de la vérité de Dieu. C'est pourquoi tu n'es pas tranquille. Quand tu vois un chien manger son os, il est tranquille. Il n'embête personne. Mais toi, tu n'es pas tranquille parce que tu sais que ta vie n'est pas bonne. Mais le diable t'a donné des arguments pour croire qu'elle est bonne. Mais ça ne marche quand même pas parce que le Seigneur a toujours le dernier mot. C'est comme ce premier voleur. Il pensait. Vous savez, même il y a des gens qui sont tellement mauvais que même à la croix, ils veulent jouer le caïd. Tu es crucifié, tu veux toujours prouver que tu es quelqu'un alors que tu es crucifié. Comme on m'a raconté, un Congolais dans une prison, il cherche à jouer toujours le sapeur, au sapeur. Mais tu es en prison, tu veux jouer au sapeur. Mais non, il était déjà à la croix, il veut jouer au caïd. Sauve-toi toi-même. C'est ça l'orgueil. Des gens qui n'ont rien du tout. Vous allez voir un enfant de 14 ans, il ne sait pas d'où viennent les 20 euros qu'on lui a donnés pour acheter les chaussettes. Mais il ose faire le têtu quoi, devant ses parents. Il ne sait pas d'où vient le cornflakes qu'il a mangé le matin. Il ne connaît pas la souffrance de ses parents. Mais il ose faire il n'est rien du tout. Mais il veut jouer au caïd. Mais Jésus, sauve-toi toi-même. Et sauve-nous. Donc même crucifié, c'est pour vous dire que l'homme, il y a des gens qui sont mauvais. Il y a des gens qui se demandent, mais comment il y en a qui ne comprennent pas? Oui, parce qu'il y a des gens, à force de résister à Dieu, ils finissent par devenir comme, leur cœur devient comme de la pierre. Il est à la croix. Vous savez, il y a des moments où tu te dis, bon, on est battu déjà, c'est déjà 12-0. On est mené 12-0, on est à la 80e minute, il ne reste que 10 minutes pour la fin du match, je vais être fair play. Mais vous êtes déjà mené 12-0, tu vois l'attaquant de l'équipe adverse, allez, tu viens, tu lui casses la jambe. Oh, les gens vont dire, ah, mais pourquoi? Déjà 12-0, reconnais seulement la défaite, calme-toi, fais le fair play. Soi-même, vous savez, aujourd'hui on donne même des titres de fair play. Donc vous êtes mené 12-0, oubliez de gagner normalement, cherchez le titre de fair play. Dans ce moment-là, tu es crucifié, tu es en prison, tu es dans ton péché. Même si tu es découragé, mais sois fair play. Reconnais que c'est ton corps qui est pourri, qui est mauvais. Sois fair play. Ne cherche pas à attaquer Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est toi. La preuve que c'est toi, il y en a qui ne font pas comme toi. Fair play, les humains, vis-à-vis de Dieu. Reconnais, sois humble. Tu reconnais que là, c'est cuit pour moi. Ça ne cherche. C'est inutile de se battre. C'est inutile. Lui, il a voulu quand même jusqu'au bout contester Dieu. Sauve-toi et sauve-nous. On m'a raconté une histoire où un homme, un pasteur a appris qu'il y avait un accident de train. Il est parti vite évangéliser les mourants, afin que certains aillent au ciel. Il trouve un homme dont la tête était coupée, mais qui pouvait parler encore. Il lui parle. Il dit, si Jésus existe, il n'a qu'à me guérir. L'homme dont la tête est coupée. Mais le pasteur lui dit, mais écoutez, monsieur, si vous mourrez aujourd'hui, vous allez au ciel. Qu'est-ce qui vous... Ah non, 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 non. S'il existe, votre Dieu, il n'a qu'à me guérir. Bien-aimé, quelle méchanceté. Parfois, nous allons dans des maisons de retraite. Nous voyons des gens, comme on dit en français, impotents, mal en point. Mais tu parles de, dès que tu lui parles de Dieu, sa tête change. Il se met en colère. Il se dit, oh, sois fair play, monsieur. Tu as déjà perdu. Ce n'est pas ta colère qui va changer les choses. C'est ça, bien-aimé. Il y a des moments où on dit, bon, là, je sais. Ça y est, je suis le dernier, bon, j'accepte. Quoi. Parce que ma colère ne va pas changer les choses. Mais ces gens-là se mettent quand même en colère. Ça suppose une vraie haine de Dieu dans le cœur. Une vraie haine de Dieu dans le cœur. Il ne faut pas tomber dans cela. Nous tous, nous pouvons en arriver à là. À cause des déceptions, à cause des problèmes, on commence à haïr Dieu petit à petit. Et on arrive à faire comme cet homme. Sauve-toi toi-même. Et nous allons voir la différence. Le deuxième, la Bible dit, il dit à l'autre, ne crains-tu pas Dieu? Il dit, c'est une façon de... On va parler dans des termes de notre époque. C'est comme s'il disait à l'autre, mais sois réaliste. Sois réaliste. Regarde le ciel et la terre. Ça continue à exister. C'est toi qui es crucifié. Sois réaliste. Regarde Michael Jackson. Il était l'homme éternel, le jeune homme éternel. Voilà où il finit. Sois réaliste. C'est ce que l'autre lui dit, mais sois réaliste. Il y a des gens, comme on se promenait avec un frère, on voit une femme de 80 ans environ, et le frère dit dire que cette femme-là a eu 18 ans, 20 ans, et devait être remplie de vie et de beauté. Ah oui, mais le voleur, l'autre, il dit, mais soyons réalistes. Tu es à la croix, c'est toi qui as un problème, ce n'est pas Dieu, c'est toi qui subis la condamnation. Sois réaliste, c'est de ta faute. Crains Dieu, Dieu existe, regarde le ciel et la terre. Toi tu passeras, mais on continuera à croire en Dieu. Il existe, crains Dieu. Et comme c'était des juifs... C'est comme aujourd'hui dans certains pays comme les États-Unis et certains pays d'Afrique. Croire en Dieu, c'est culturel. Tout le monde croit en Dieu presque. Donc, tous deux, ils devaient croire en Dieu. Ils disent, mais crains Dieu. Donc, le problème, c'était maintenant Jésus. Mais crains Dieu. Qu'est-ce que cet homme t'a fait? Tu subis la condamnation. Pourquoi tu l'attaques? Bien-aimé, dès que cet homme-là s'est humilié ainsi, en autre terme, dès qu'il est entré dans le fair play, il a compris que c'était perdu pour lui. Autant chercher la solution ailleurs. C'était perdu. Et je peux te dire que la situation de l'homme est perdue. Elle est perdue. Ton CDI ne te garantit pas la belle vie. Parce que dans les maisons de retraite, il y en a beaucoup qui ont eu des très bons CDI. Les gens qui se suicident à France Télécom, est-ce qu'ils avaient des CDD? Ils avaient des CDI. Mais ils se suicident. Ils se jettent par la fenêtre. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des gens qui ramassaient du pain, qui cherchaient du pain tombé, qui fouillaient dans les poubelles pour manger. Mais ils ne se sont pas suicidés. Mais ceux-là, ils ont un bon boulot à France Télécom. Juste parce qu'on les mute, on les change, ils se suicident. C'est pour vous dire que la vie, ce n'est pas le travail. La vie, ça vient de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Les jeunes qui se donnent rendez-vous à 14 ans, 15 ans sur Internet pour se suicider au même moment. Mais qu'est-ce qui manquait dans leur vie? Ni nourriture, ni beauté. Rien du tout de cela ne manquait. Mais ce n'est pas ça la vie. Tu peux tout avoir, tu sens en toi un dégoût de vivre. La vie vient de Dieu. Bien-aimé, c'est ça la réalité. Cet homme lui dit, crains Dieu. Les choses vont continuer, nous on va mourir. Soyons fair play. Et dès que cet homme a été fair play, la révélation est venue dans sa vie. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Comme on dit, un astronome qui scrutait les étoiles est tombé dans un puits en marchant. Voilà. Il ne savait pas voir tout près de lui. Il voulait comprendre les étoiles. Bien-aimé. Comme ce médecin qui, après avoir fait des recommandations à son patient d'arrêter de fumer, dès que le patient sort, il allume lui-même sa propre cigarette. Voilà ce qu'un homme sans Dieu, il devient, excusez-moi le terme, bête. C'est pourquoi la Bible les appelle hommes animaux. Ils sont des hommes animaux parce qu'ils ne réfléchissent plus. Vous imaginez quelqu'un qui va de minuit à 6 heures du matin. On a vu un reportage sur le Red Bull. Red Bull à la vodka. De minuit à 5 heures du matin. Donc on dit que puisque le Red Bull donne l'énergie, donc quand tu as pris beaucoup d'alcool, tu n'es pas fatigué. Allez, on y va. Il y en a qui se réveillent dans le coma à l'hôpital. Qui est bête? Cette personne-là ou moi qui ai bu mon jus de banane orange avec frites poulet, tranquillement le soir, j'ai regardé les infos, j'ai loué l'Éternel, je me suis endormi tranquillement. Qui est bête, bien-aimé, raisonnez vous-même. Réfléchissons. Lui qui est là à danser avec le Red Bull et la vodka, bien-aimé, soyons sérieux. Les gens vont dire, ah, nous sommes démodés, nous sommes dans la mode, c'est nous qui sommes dans la mode. Nous sommes des véritables hommes. Le reste, c'est des hommes animaux. Les gens qui viennent, vous croyez que, comme on voit à la télé, les gens sont assis, il y a des femmes qui défilent avec des robes, des défilés de mode. Ça, c'est ça, être intelligent, bien-aimé. Mais non! On t'apprend comment marcher, mettre un pied après. Mais non! Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la vie. L'autre lui dit, sois fair play. Reconnais qu'on a échoué. On a échoué. L'homme a échoué. Combien de divorces? L'homme a échoué. Le mariage ne solutionne rien. Combien des enfants tués? Avortés? L'homme a échoué. Pendant qu'il y en a qui cherchent à adopter, d'autres avortent. Pendant qu'il y en a qui cherchent à mettre au monde, d'autres tuent. L'homme a échoué. Il n'y a pas de solution. Et l'homme lui dit, le voleur le dit à l'autre, il dit, mais craignons Dieu. La révélation est venue. Il dit, nous, ce que nous subissons, c'est parce que nous avons fait le mal. Ce que nous subissons, c'est parce que nous avons fait le mal. C'est parce que l'humanité a fait le mal. S'il y a des guerres, c'est parce qu'il y a des humains mauvais. S'il y a des viols, c'est parce que l'humanité est mauvaise. Les autorités qui envoient des policiers aller chercher le violeur, c'est les mêmes qui autorisent la pornographie, c'est les mêmes qui autorisent les panneaux publicitaires sexy, c'est les mêmes. Il faut savoir ce qu'on veut. Et c'est les mêmes aussi parfois qui sont dans ces choses-là. On voit à la télé, hein. Alors comment résoudre ces problèmes-là? L'homme a échoué. Lui, il a reconnu que ce que nous subissons, c'est à cause de nous-mêmes. C'est à cause du péché. C'est une doctrine que certains même chrétiens n'acceptent pas. Ils veulent tout mettre, tout ce qui est négatif, ils veulent dire c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est la méchanceté de l'homme qui produit le mal. Et on peut le subir ce mal, même si on n'a pas été à l'origine directement du même mal qu'on subit. Mais parce que d'autres ont fait le mal, on subit les conséquences. Et nous-mêmes aussi, on fait le mal et d'autres en subissent les conséquences. L'homme a échoué. Il a échoué. Il a beau mettre les produits anti-rides. La Bible dit, tu as péché, tu mourras. Les rides finiront par venir. Pour certains qui continuent à mettre encore des produits, les noirs pour devenir clairs, même si c'est interdit en France, ta peau va noircir toujours un jour. Reste avec ta peau naturelle. Amen. Ça va te protéger du soleil et de beaucoup d'autres bobos, quoi. Bien-aimé. Tu as beau faire des tonnes de maquillage, rendez-vous dans 40 ans, on va voir ce que ça va donner. L'homme a échoué. Nous avons échoué. Notre solution, c'est le fair play, l'humilité, reconnaître on a échoué. Il y a des moments où, bien-aimé, nous sommes en France. Il y a les restaurants du cœur, il y a les restaurants chinois, il y a je ne veux pas manquer 20 euros, 15 euros pour aller dans un restaurant chinois. Tu peux faire tout ça, mais tu ne te sens pas bien. Tu sens que pour que tu te sentes bien, il faut que tu pries. Il faut que tu lises la Bible. Mais tu peux aller au restaurant chinois. Tu peux aller acheter des yaourts que tu veux. Mais tu ne te sens pas bien. Il y a quelque chose qui manque. C'est la présence de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a besoin de Dieu pour vivre. C'est clair, il en a besoin. Parce que l'homme, ce n'est pas qu'un sac de viande qu'il mange. C'est aussi, il a une âme. Cette âme-là a besoin de Dieu. Et quand cette âme-là ne trouve pas Dieu, elle est tourmentée et elle gâche tout le reste, bien-aimé. Cet homme-là a été fair play. Il a dit, soyons humbles. Ce que nous subissons, c'est normal. On s'est mal comporté. Mais lui, il dit au verset 41, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. La doctrine chrétienne, c'est celle-là. C'est que l'homme souffre, meurt, parce qu'il a péché. C'est pourquoi s'il continue comme ça, il ira en enfer. Le jugement de Dieu l'attend. Mais il y a un qui n'a pas péché, c'est Jésus-Christ. Et cet homme-là, à la croix, reçoit la révélation que Jésus-Christ, parce qu'il il n'a pas marché avec Jésus, hein. Il n'a pas accompagné Jésus depuis son jeune âge. Mais comment ose-t-il dire qu'il n'a rien fait de mal? Il a reçu la révélation. Il a vu cela, que c'est un homme pur. Et devant la pureté, il s'est incliné. Je voulais nous montrer d'où venait la foi de cet homme-là. C'est la pureté de Jésus. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ ne manifestait pas de puissance pour impressionner. Il était crucifié, mais il dégageait la pureté, l'amour, la paix. Et vous savez, devant la pureté, on s'incline. J'ai l'habitude de dire aux frères, quand je vois des bons comportements des chrétiens, je me sens tout petit face à ces chrétiens-là. Je me sens tout petit. Quand vous voyez un chiot, le petit d'un chien, comme c'est beau, tu t'inclines, quoi. Tu dis, mais non, c'est extraordinaire. Vous savez, à la télévision, on a montré des lions qui n'arrivent pas à manger le bébé d'une antilope. Parce que l'innocence, la pureté, c'est beau. On ne peut pas détruire ça. Un lion qui a faim, il est là, il voit le bébé antilope, il ne peut pas le manger. On dit que c'est des animaux sauvages. Mais même les animaux sauvages, devant la pureté, ils sont calmés. Devant l'innocence, ils sont calmés. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ, quand il était dans son jeûne, dans le désert, il était entouré des animaux sauvages. Il ne lui faisait rien du tout. Parce que la pureté, ça attire le respect. Ça attire la soumission. Quel est le roi dans nos maisons bien-aimées? C'est les bébés, hein? C'est les bébés qui sont les rois. Quand les enfants rentrent de l'école, qui est-ce qu'ils cherchent le premier? Le bébé, il est où? C'est les bébés qui sont les rois. Quand tu te lèves, tu observes qui? Le bébé. C'est l'innocence et la pureté qui produisent du respect. Quand cet homme-là a vu Jésus, il a dit, il est honnête. Vous savez, quand David pouvait tuer Saül, il ne l'a pas tué. Saül cherchait à tuer David. Il a dit à David, Dieu te bénira. Tu es un homme bon. Que Dieu te bénisse. Quand quelqu'un ne t'a rien fait, bien-aimé, même si tu ne l'aimes pas, ce n'est pas facile de lui faire du mal. Ceux qui dépassent cette étape-là sont vraiment mauvais. Donc Satan a détruit leur cœur, quoi. Mais même quand, avec le mal qu'il y a dans l'homme, l'homme est quand même arrêté par devant l'innocence, la pureté, la bonté, l'homme réfléchit quand même. Quand Saül a vu que David ne l'avait pas tué, il a réfléchi. Il a dit, toi tu es de Dieu, c'est toi qui seras roi. Il a lui-même confessé, c'est toi qui seras roi. Parce qu'il s'est senti tout petit face à David, alors que c'était lui qui était roi. Quand quelqu'un est pur, il est bon, il est amour, on se sent tout petit vis-à-vis de lui. C'est ça. Et cet homme-là était à la croix, il a vu la pureté du Seigneur. Il a dit, on est tout petit, regardez-lui. Il est crucifié, il n'a rien fait, il ne se plaint pas. Il est crucifié, il n'a rien fait. Il reste calme, rempli de paix. Vous savez, Dieu nous récompense toujours. Son fils a trop souffert et à la fin, le Seigneur, son Père lui a récompensé quoi? Le véritable chrétien, il a eu à la croix. Quand il faisait des miracles, les gens mangeaient, les gens criaient, le roi des rois, c'est lui. Mais quand il n'a plus fait les miracles, ils l'ont oublié. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, quand ils sont pauvres, ils n'ont rien du tout. C'est le Seigneur. Quand ils sont dans des situations difficiles, c'est le Seigneur. Mais dès que ça s'arrange, allez, au revoir. Je te rappellerai quand j'aurai des problèmes. Et le Seigneur rigole, il dit, voilà, des ingrats. Cet homme a dit, il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Jésus n'a rien fait de mal. C'est le seul juste que l'humanité ait connu. Tu peux en être certain. Si cet homme à la croix en était certain, à combien plus forte raison toi qui lis ça? Pierre l'a dit dans 1 Pierre 2, 22. Il dit en lui, il n'y a point eu de fraude. Lui-même Jésus l'a dit dans Jean 8, 46. Qui peut me convaincre de péché? Il n'a rien fait de mal. C'est pour cela qu'il peut être notre sauveur. C'est ça la doctrine chrétienne. L'homme a péché et mérite la mort. Mais Jésus-Christ, le juste, est venu souffrir à la place du pécheur, afin que le pécheur qui se repent puisse aller au paradis. Alléluia. C'est ça la doctrine. Et il dit à Jésus, une doctrine chrétienne encore, c'est que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Le salut ne se trouve qu'en lui. C'est pourquoi cet homme-là s'adresse à Jésus. Jésus, souviens-toi de moi. Parce que c'est Jésus la porte. Jésus dit lui-même dans Jean 10, je suis la porte des brebis. Quiconque entre par moi sera sauvé, bien-aimé. Tu ne peux pas entrer par la religion. Oh, je suis catholique, je suis protestant, ça ne peut pas te sauver. J'appartiens à telle église, ça ne peut pas te sauver. J'ai des parents chrétiens, ça ne peut pas te sauver. La porte des brebis, c'est Jésus. Je chante à la chorale, ça ne peut pas te sauver. Je suis prédicateur, ça ne peut pas te sauver. C'est Jésus seul qui sauve. Personne ne sera sauvé par les œuvres de la loi. Personne ne sera sauvé par ses propres efforts. C'est un cadeau gratuit. Il dit, Jésus, c'est toi l'ordonnateur du salut. Apocalypse 7 nous dit, le salut appartient à notre Dieu et à l'agneau qui est assis sur le trône. On connaît ce chant. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. La traduction en anglais, c'est clairement écrit, le salut appartient à notre Dieu et à l'agneau bien-aimé. Souviens-toi de moi. Est-ce que cet homme-là a dit, Jésus, j'ai été pour toi maintenant, alors sauve-moi. Jésus, je suis parti régulièrement à l'église. Jésus, j'ai dansé. Jésus, j'ai aidé des gens. Non, il comptait que sur la bonté de Jésus. La bonté de Jésus, son amour était son seul recours. Ce n'était pas ses mérites à lui. D'ailleurs, il n'en avait pas. Et toi non plus, tu n'en as pas. Parce que tout ce qu'on peut faire de bien vient du Seigneur. Il dit, Jésus, souviens-toi de moi. Bien-aimé, lâchons l'affaire de chercher à se sauver par soi-même. C'est impossible. Nous ne pouvons être sauvés que par grâce, par les moyens de la foi. 40 ans de pastorat ne sauve pas. C'est le cadeau du Seigneur. Parce que la nature de l'homme n'a pas été... la chair de l'homme n'a pas été régénérée. C'est son esprit qui a été régénéré. Et la chair a toujours le péché. Le seul moyen d'être sauvé, c'est par la purification dans le sang de l'agneau. C'est par grâce, bien-aimé. Il rajoute, quand tu viendras dans ton règne, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il y a un retour de Jésus. Il y a une venue prochaine du Seigneur. Il y a des gens aujourd'hui qui osent dire, mais oh, on a attendu ça, ça fait longtemps. L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 3, oui, le Seigneur va revenir comme il est venu autrefois. Comme il y a eu le déluge autrefois, il va revenir. Mais il est patient, il veut que tout le monde soit sauvé. Ce ne sont pas des discours en l'air, c'est des discours de vérité. Et ça s'accomplira. Cet homme-là a cru à la doctrine du retour de Jésus-Christ, à la croix. Il a cru en cela. Et l'autre ne s'est pas repenti. Il ne s'est pas repenti. Dans cette scène-là, nous voyons la scène de l'humanité. Il y a des gens, malgré la pureté du Seigneur, malgré la bonté du Seigneur, ne se repentiront quand même pas. Parce qu'ils n'aiment pas l'amour, ils n'aiment pas la paix, ils n'aiment pas la justice. La Bible dit du Seigneur Jésus, il a aimé la justice, il a haï la méchanceté. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien-aimés, nous sommes des humains. Vous comme moi, parfois nous avons des mauvais désirs. Mais ceux qui aiment la justice, ils disent, mais oui, c'est vrai qu'il y a telle inclination en moi. Mais si je commets ce péché-là, je vais nuire à d'autres personnes. C'est ça, aimer la justice et haïr le mal. Tu dis, j'ai envie, mais mon envie va produire des dégâts chez l'autre. Va produire des dégâts, des souffrances dans le cœur de Dieu. Tu dis, non, je ne veux pas le faire souffrir. C'est ça, aimer la justice. Dieu sait qu'on n'est pas parfait. Dieu sait que notre corps, notre chair a des désirs contraires à ses désirs à lui. Il le sait. Il ne nous condamne pas pour cela. Mais il veut de nous qu'on choisisse quand même la justice, ayant constaté que nos désirs conduisent aux ténèbres. Vous vous imaginez les difficultés des enfants qui vivent avec des parents divorcés. Parfois les 5 premières années où les parents ne s'entendent pas. Il y en a qui s'entendent par la suite, mais parfois les trois premières années, les cinq premières années, ils ne s'entendent pas. Des enfants qui vivent dans ce tiraillement-là, est-ce que vous avez déjà imaginé ça? Certains sont marqués à vie. Mais Jésus-Christ peut libérer de cela. Mais ça fait mal. Tout ça parce qu'il y a un au bureau, il a trouvé sa secrétaire. Et bon, après c'est le divorce. Il y a l'autre qui a eu une amie qui est elle-même célibataire. Mais quel conseil elle va te donner? Casse ton mariage. Et on suit et on casse des vies. Ce n'est pas bon. C'est ce que le Seigneur, c'est ce qui est écrit. Il a aimé la justice, il a haï la méchanceté. Il y a des actes dont nous avons envie, mais c'est des actes méchants parce que ils produisent des souffrances dans la vie des autres. Quand tu échoues à l'école, les parents sont tristes. Dans les dîners de famille, quand on va leur demander « Hé, Germaine !» 4 sur 20 de moyenne. Vous croyez, est-ce que ça c'est bien pour les... Vous mettez à la place de ses parents. Et quand tu réfléchis, tu dis non. J'ai envie d'échouer, mais mon échec, même si c'est curieux d'avoir envie d'échouer, mais ça peut venir. J'ai envie d'échouer, mais mon échec va faire souffrir mes parents. Ils m'ont élevé avec souffrance. Ils travaillent pour que je mange. Je ne veux pas les faire souffrir. Bien aimé, c'est ça la réalité. Réfléchir à la souffrance des autres. Jésus a aimé la justice, il a haï la méchanceté. La méchanceté, ce n'est pas bon. Le Seigneur veut nous sauver. Jésus, souviens-toi de moi. Et l'autre continue toujours à protester. La méchanceté, qui ne veut pas s'effacer, s'incliner devant la bonté et la justice de Jésus-Christ. Mais j'ai une mauvaise nouvelle à te signaler. Toi qui es dans le camp du voleur, sache que ton maître Satan a été vaincu à la croix. Un jour, tu passeras au jugement, comme Michael Jackson est passé au jugement. Il avait pris la place de Dieu. Il passe maintenant en jugement, bien-aimé. Les MC Solar que tu suis, ils passeront en jugement. La vodka que tu bois là sera consumée au feu au temps de la fin, au jugement dernier. C'est le moment d'être fair play, de reconnaître la défaite, d'être humble, de dire il n'y a que de solution en Dieu seul. Omar Bongo, le président du Gabon, il est où maintenant? En jugement, hein? Pendant que toi tu bois du lait. Réfléchis à tout ça. Il est où? Hitler, Staline, ils sont où maintenant? Jean-Paul II, il est où maintenant? En enfer, hein? Vrai ou faux? Mais vrai, hein? Quelqu'un qui adore les statues, tout ça, c'est le jugement. Les magiciens sont où? Marilyn Monroe, elle est où maintenant là? Réfléchis. Sois fair play. Reconnais l'échec de l'homme. Quelqu'un qui n'a pas Dieu finira mal. C'est ça la réalité. Le deuxième voleur a eu la bonne réaction. Il a dit, on a échoué. Ça ne sert à rien de creuser sa tombe. Ça ne sert à rien. Je veux changer. Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras, je crois que tu reviendras. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce qu'un homme ne peut pas être si bon sans être un chef. Vous savez, c'est ça, les chefs. Les chefs, c'est ceux qui sont bons. Il a dit, un homme ne peut pas être si juste s'il n'est pas un grand. Ça doit être un grand. Il ne peut pas être si bon si ce n'est pas un grand. C'est un grand qui est là. Souviens-toi de moi quand tu reviendras. Jésus a donné la plus belle réponse, non. L'une des plus belles réponses qu'il ait jamais donné à quelqu'un. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même. Bien-aimé, et cette réponse, nous pouvons l'entendre chaque jour. Nous qui acceptons de nous humilier et dire, Jésus, souviens-toi de moi, je suis perdu. Jésus dit, aujourd'hui même, puisque tu as crié à moi, quand le malheureux crie, l'Éternel entend, aujourd'hui même, tu vas expérimenter ma grâce et mon salut. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Voilà ce que lui dit le Seigneur. Aujourd'hui même, quelle bonne nouvelle. Cet enseignement est là pour nous encourager à nous attacher aux vraies valeurs de la vie, de la Bible, de la vie chrétienne. C'est l'humilité. Accepte que tu es petit devant le grand Dieu. Et dès que tu acceptes que tu es petit devant le grand Dieu, il peut t'expliquer des choses qui vont t'amener au salut. Il va te donner la foi. Accepte que ta situation, c'est ta propre faute. Cet homme-là nous enseigne cela. Ce n'est pas la faute de ta femme. Ce n'est pas la faute de ton mari. C'est ta propre faute. Ce n'est pas la faute de tes enfants. Ce n'est pas la faute de tes parents. C'est ta propre faute. Accepte ça. Endosse le péché de l'humanité. Reconnais l'erreur. C'est ma propre faute parce que je peux m'attacher à la bonté du Seigneur pour qu'il change ma situation. Je ne l'ai pas fait. J'ai voulu faire les choses par les expériences, par ma logique. C'est le moment, bien-aimé, de s'humilier. Deuxièmement, de reconnaître que Dieu est juste et bon. Troisièmement, de se repentir. Le diable te fait croire que les envies vont continuer, les désirs vont continuer. C'est faux. Même si ces envies continuent, la puissance de Dieu sera plus forte que ces envies-là. Fais confiance, comme cet homme a fait confiance à un homme crucifié. Aujourd'hui, toi, on te demande de faire confiance au Dieu Tout-Puissant, au ressuscité, celui qui a vaincu la mort. Fais confiance en lui. Ne travaille pas dans la chair, toi qui te dis chrétien, travaille en esprit. Repens-toi d'avoir travaillé dans la chair. Et si tu n'es pas encore chrétien, repens-toi de ta vie passée et entre dans la vraie vie. Ensuite, prépare-toi à la venue du Seigneur. Si tu es déjà chrétien, cet homme-là t'enseigne aujourd'hui. Il te dit, Jésus-Christ revient. Es-tu prêt à l'accueillir? Balaye tout ce qui a balayé encore. Laisse le Saint-Esprit changer ton cœur davantage, de gloire en gloire, de pureté en pureté. Le Seigneur est fidèle. Si il a sauvé cet homme à la croix, il viens à toi aussi dans ta situation pour te sauver aujourd'hui. Quel encouragement de voir qu'un homme à la croix a été sauvé. Alors nous, qui ne sommes pas à la croix, comment ne peut-il pas nous sauver de nos situations difficiles? C'est le jour du salut. C'est le jour de la vérité. Attache-toi aux vérités essentielles de la Bible. Attache-toi. Prends exemple sur cet homme pour manifester la foi, plus que jamais, parce que cet homme a cru à un crucifié. Prends exemple sur cet homme pour croire que les plans que le Seigneur t'a donnés vont s'accomplir. Les projets qu'il a formulés avec toi vont s'accomplir. Prends exemple sur lui qui a cru à un crucifié. Prends exemple sur lui pour croire que les promesses de la Bible vont s'accomplir sur ta vie. Et c'est en ce moment-là que le vrai bonheur va se manifester. Merci Père éternel pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta présence. Merci pour ta parole qui nous enseigne à demeurer dans la vérité, à rechercher ce qui est humble et non ce qui est élevé. Ô Seigneur, aide-nous éternel à rechercher ce qui est humble, Seigneur. Nous voulons aujourd'hui encore être l'argile et que toi tu sois le potier, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur.
Que je sois comme toi.
Change mon cœur.
Change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi.
Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir.
Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois.
Change mon cœur.
Change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur.
Bien-aimé, j'invite quiconque veut se convertir à Jésus. Si tu veux lâcher comme cet homme qui a pris la bonne décision, n'aie pas honte, c'est l'heure de l'humilité. C'est l'heure du fair play. Reconnais que tu es petit. Accepte d'être transformé et changé par ton Sauveur. Si tu es là au milieu de nous, tu veux te donner à Jésus, changer de vie. Nous voulons prier pour toi. Tu peux passer devant pour accepter Jésus dans ta vie. La voix du Seigneur t'appelle en ce moment. J'appelle tous ceux qui veulent se donner à Jésus, se convertir, à passer devant pour recevoir une nouvelle vie. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ t'appelle. Il n'y a pas de honte à voir. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Prends l'exemple sur ce voleur d'aujourd'hui. C'est l'humilité qui apporte la foi et c'est la foi qui sauve. Merci, Seigneur. d'agir pour le salut à cause du sang de l'agneau.
Me voici, je suis à toi.